Les actes des apôtres, chapitre 27. Départ pour Rome, versets 1 à 8.
Lecture de la parole. Or, après qu'il eût été décidé que nous ferions voile pour l'Italie, ils remirent Paul et quelques autres prisonniers à un centurion nommé Jules, de la cohorte Auguste. Et étant montés sur un navire d'Adramite, devant faire voile pour les lieux qui sont situés le long de la côte d'Asie, nous partîmes, Aristarque, macédonien de Thessalonique, étant avec nous. Et le jour suivant, nous arrivâmes à Sidon, et Jules, traitant Paul avec humanité, lui permit d'aller vers ses amis pour jouir de leurs soins. Et étant partis de là, nous voguâmes à l'abri de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Et après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centurion ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Et naviguant pesamment durant plusieurs jours et étant arrivés avec peine à la hauteur de Cnide, le vent ne nous permettant pas d'avancer, nous côtoyâmes la Crète vis-à-vis de Salmone, et l'ayant longée avec peine, nous arrivâmes en un lieu qui est appelé Beauport, près duquel était la ville de Lazée.
Lecture de l'étude. Le départ pour l'Italie décidé, Paul et d'autres prisonniers furent remis à un centurion nommé Jules, qui faisait partie de la cohorte Auguste, unité de l'armée romaine portant le nom du célèbre empereur. On les embarqua sur un navire d'Adramite, port de l'Asie mineure. Aristarque de Thessalonique accompagnait Paul. Nous l'avons déjà vu avec l'apôtre à Éphèse, chapitre 19, puis en Macédoine. Il paraît avoir été prisonnier à Rome, puisque l'apôtre l'appelle son compagnon de captivité en écrivant aux Colossiens, chapitre 4, verset 10, et aussi son compagnon d'œuvre dans l'épître à Philémon.
Colossiens 4, verset 10, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue.
Sans doute, plusieurs frères accompagnaient Paul, entre autres Luc, l'auteur du livre des Actes. Le navire, devant faire escale au port de la côte d'Asie, aborda le lendemain à Sidon. Le centurion qui traitait Paul avec humanité, est-il dit au verset 3, lui permit d'aller avec ses compagnons voir leurs amis, afin de bénéficier de leurs soins. De là, ils partirent pour Chypre, les vents étant contraires, ils voguèrent à l'abri de cette île et arrivèrent à Myra, port situé au sud-ouest de l'Asie mineure. Leur navire devant continuer sa course vers le nord, ils le quittèrent pour prendre un bateau d'Alexandrie qui allait en Italie. À cause du vent défavorable, le navire côtoya la Crète et atteignit avec peine Beauport, près d'une ville nommée Lazée. De l'île de Crète à Malte, versets 9 à 44.
Lecture de la parole. Et comme il s'était écoulé assez de temps, et que la navigation était déjà périlleuse, parce que le jeûne aussi était déjà passé, Paul les avertissait, disant, « Hommes, je vois que la navigation sera accompagnée de revers et de beaucoup de dommages, non seulement quant au chargement et au navire, mais même quant à nos vies. » Mais le centurion se fiait plus au pilote et au patron du navire qu'à ce que Paul disait. Et comme le port n'était pas commode pour hiverner, la plupart furent d'avis de partir de là, afin d'atteindre, s'il était possible, Phénice, port de Crète, regardant vers le nord-est et le sud-est, afin d'y passer l'hiver. Et comme le vent du midi soufflait doucement, pensant qu'ils étaient venus à bout de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais un peu après, un vent orageux, appelé Euroclydon, descendit violemment de l'île. Et le navire étant emporté, et ne pouvant tenir contre le vent, nous le laissâmes aller à la dérive et fûmes emportés. Et courant sous une petite île appelée Clauda, nous nous rendîmes à grand peine maîtres de la chaloupe. et l'ayant retiré à bord, ils employèrent des mesures de sûreté en liant le navire avec un câble passé dessous. Et craignant de tomber sur les bancs de sable de la Syrte, ils descendirent les agrès supérieurs et étaient ainsi emportés. Et comme nous étions violemment battus par la tempête, le jour suivant ils jetèrent une partie de la charge. Et le troisième jour, ils jetèrent de leurs propres mains les agrès du navire. Et comme durant plusieurs jours il ne parut ni soleil ni étoile, et qu'une grande tempête nous pressait, dès lors toute espérance de pouvoir nous sauver nous fut ôtée. Et après qu'on eut été longtemps sans manger, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, dit « Ô homme, vous auriez dû m'écouter et ne pas partir de Crète, et éviter ces avaries et ce dommage. Et maintenant je vous exhorte à avoir bon courage, car on ne fera la perte de la vie d'aucun de vous, mais seulement du navire. Car un ange du Dieu à qui je suis et que je sers est venu à moi cette nuit, disant « Ne crains point, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, ayez bon courage, car je crois Dieu, et je sais que la chose arrivera comme il m'a été dit. Mais il faut que nous soyons jetés sur quelque île. » Et quand la 14e nuit fut venue, comme nous étions portés çà et là sur la mer Adriatique, les matelots, au milieu de la nuit, pensèrent que quelque terre les approchait, et ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Puis ayant passé un peu plus loin et ayant encore jeté la sonde, ils trouvèrent 15 brasses. Et craignant que nous ne donnassions au milieu des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et souhaitèrent que le jour vînt. Et comme les matelots cherchaient à s'enfuir du navire, ayant descendu la chaloupe en mer sous prétexte d'aller jeter au loin les ancres de la proue, Paul dit aux centurions et aux soldats, « Si ceux-ci ne demeurent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Et en attendant que le jour vînt, Paul les exhortait tous à prendre de la nourriture, disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous passez à jeun, dans la tente, sans avoir rien pris. C'est pourquoi je vous exhorte à prendre de la nourriture. » Car cela est nécessaire pour votre conservation, car pas un cheveu de la tête d'aucun de vous ne périra. » Et quand il eut dit ces choses, ayant pris du pain, il rendit grâce à Dieu devant tous, et l'ayant rompu, il se mit à manger, et ayant tous pris courage, eux aussi prirent de la nourriture. Or nous étions en tout, dans le navire, 276 personnes, et quand ils eurent assez mangé, ils allégèrent le navire en jetant le froment dans la mer. Et le jour étant venu, ils ne reconnaissaient pas le pays. Mais ils apercevaient une baie, ayant une plage, sur laquelle ils résolurent, s'ils le pouvaient, de faire échouer le navire. Et ils abandonnèrent les ancres à la mer, coupant les câbles, lâchant en même temps les attaches des gouvernails. Et ayant mis au vent la voile d'Artimon, ils cinglèrent vers la plage, et étant tombés en un lieu baigné des deux côtés par la mer, ils échouèrent le navire. Et la proue, se trouvant engagée, demeurait immobile, mais la poupe se rompait par la violence des vagues. Et l'avis des soldats fut de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne se sauvât à la nage et ne s'enfuit. Mais le centurion, voulant sauver Paul, les empêcha d'exécuter leur dessein, et il ordonna que ceux qui savaient nager se jetassent dehors les premiers et gagnassent la terre, et le reste, les uns sur des planches et les autres sur quelques débris du navire. Et ainsi, il arriva que tous parvinrent à terre sains et saufs.
Lecture de l'étude. La saison était avancée. À cette époque, on ne naviguait guère en hiver, car les voiliers étaient incapables de lutter contre les tempêtes de la saison. Il est dit, verset 9, que le jeûne était passé. Il correspondait à la fête des propitiations qui avait lieu le 7e mois de l'année juive, en sorte que l'on se trouvait au mois d'octobre ou de novembre. En considérant les dangers de la navigation, Paul conseilla aux matelots de passer l'hiver dans le port où ils se trouvaient. Il les avertit que la traversée risquait de causer de sérieux dommages non seulement au chargement et au navire, mais aussi à leur vie. Mais le centurion se fiait plus au pilote et au capitaine qu'à Paul. Comme le port n'était pas commode pour hiverner, ils résolurent de partir pour Phénice, autre port de Crète, afin d'y passer l'hiver. Ces hommes ne connaissaient pas l'importance de ce prisonnier qui allait à Rome comme serviteur de Dieu et non comme malfaiteur. Ils ne pensaient pas que sa parole eût la valeur de la parole de Dieu, car il leur parlait de sa part. Ils l'apprirent plus tard lorsque tout ce que Paul avait prévu arriva. Le vent du midi soufflait doucement, ce qui leur était favorable et paraissait leur donner raison. Mais peu après, un vent violent descendit de l'île, à l'abri de laquelle ils pensaient voyager. Ne pouvant plus lutter, ils laissèrent aller le navire à la dérive et furent emportés. Toutes les mesures de sûreté n'apportèrent aucune amélioration à leur sort, et ils craignirent d'être emportés sur les bancs de sable de la Syrte, grand golfe au nord de l'Afrique, dans la direction duquel le vent les chassait. Ils descendirent les agrès supérieurs du navire. Le lendemain, ils jetèrent à la mer une partie de la charge, et le troisième jour, le reste des agrès, afin d'alléger le bâtiment. Les jours s'écoulaient sans changement, durant lesquels, dit l'écrivain des Actes, il ne parut ni soleil ni étoile. Tout espoir de salut s'évanouit. Quand l'homme est à bout de ressources parce qu'il n'a pas écouté la voix de la sagesse, Dieu peut intervenir. La vie de l'équipage et des passagers était entre ses mains, et tout particulièrement son serviteur Paul, qu'il envoyait à Rome. C'est lui qui sera écouté, maintenant que la sagesse de ceux auxquels le centurion se fiait est venue à néant. Voir psaume 107, verset 27.
Ils tournent et chancellent comme un homme ivre, et toute leur sagesse est venue à néant.
Après avoir été longtemps à jeun, Paul, se tenant debout au milieu d'eux, dit « Ô homme, vous auriez dû m'écouter et ne pas partir de Crète, et éviter ces avaries et ce dommage. Et maintenant, je vous exhorte à avoir bon courage, car on ne fera la perte de la vie d'aucun de vous, mais seulement du navire. Car un ange du Dieu à qui je suis et que je sers est venu à moi cette nuit disant « Ne crains point, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, ayez bon courage, car je crois Dieu, et je sais que la chose arrivera comme il m'a été dit. Mais il faut que nous soyons jetés sur quelque île, versets 21 à 27. De tous ceux qui se trouvaient à bord, aucun ne pensait qu'au milieu d'eux se trouvait un homme en relation avec le ciel, et auquel un ange était apparu au milieu de la tempête. Insignifiant comme un prisonnier pouvait l'être, c'est de lui que tous dépendaient. « Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi, » lui avait dit l'ange. Quel contraste avec un autre homme, aussi un serviteur de Dieu, au milieu d'une tempête sur les mêmes eaux, alors que tout espoir de sauver le navire était perdu. Le salut commun dépendait aussi de lui, et par un tout autre moyen. Il s'agit de Jonas, le prophète, qui fuyait de devant l'Éternel, afin de ne pas s'acquitter du message adressé par lui à Ninive. Ayant désobéi, il comprend qu'il est la cause de cette tempête, et indique lui-même le moyen de l'arrêter. Il faut le jeter à la mer. Paul, au contraire, était dans le chemin de Dieu, envoyé à Rome pour rendre témoignage devant l'empereur et les grands de ce monde ainsi que le Seigneur l'avait dit à Ananias au chapitre 9, verset 15.
Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme m'est un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. »
De tels faits et tant d'autres dans la parole nous font voir que ce qui importe pour un serviteur de Dieu, comme pour tout croyant, c'est d'obéir dès que l'on connaît la volonté de Dieu. Il nous montre aussi que ce qui importe pour Dieu ici-bas, ce sont ceux qui lui appartiennent. Les hommes ne pensent pas que de grands événements, provoqués en apparence par une cause toute naturelle, le sont en réalité par un racheté du Seigneur, et en tout cas par la volonté de Dieu, qui a toujours des raisons pour agir comme il le trouve bon. Lorsque vint la 14e nuit de ce terrible voyage, le navire errait sur la mer Adriatique, dirigé par celui qui commande aux vents et à la mer, vers l'ouest plutôt que vers les côtes de l'Afrique. Pensant qu'ils approchaient de la terre, les matelots jetèrent la sonde et trouvèrent 20 brasses de profondeur, un peu plus loin 15 brasses. Craignant que le navire ne donnât contre un écueil, ils l'immobilisèrent au moyen d'une ancre. Ensuite, ils descendirent la chaloupe à la mer, sous prétexte d'aller jeter plus loin les ancres de la proue, mais avec l'intention de s'enfuir. Alors Paul dit aux centurions et aux soldats, « Si ceux-ci ne demeurent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Verset 31. En entendant cela, les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe qui tomba à la mer. En attendant le jour, Paul les exhorta à prendre de la nourriture, car, dit-il, cela est nécessaire pour votre conservation, car pas un cheveu de la tête d'aucun de vous ne périra. Verset 33-34. Ces exhortations de Paul nous fournissent un enseignement. Tant celles relatives aux matelots qui devaient rester dans le navire pour le salut de tous, que celles qui concernent la nécessité de prendre de la nourriture. Dieu place à la disposition de chacun les moyens d'existence et de conservation. Les matelots ayant pour métier tout ce qui touche à la marche et à l'entretien d'un navire avaient donc la responsabilité du bateau, à eux de faire leur service. C'est pourquoi Paul leur enjoint de rester à bord. Dieu peut accomplir des miracles quand il le trouve à propos. Mais tant que nous avons à notre disposition les moyens qu'il nous a donnés pour nous en servir, nous devons en user. Il en va de même pour la nourriture. Un homme ne peut vivre sans manger, et Dieu a pourvu à la nourriture dont il a besoin. Comme elle ne manquait pas dans ce navire, ils avaient à la consommer. Il est probable que, venant d'Alexandrie en Égypte, ils transportaient du blé, ce que confirme le verset 38. On ne peut dire que Dieu nous garde lorsque nous nous exposons au danger. Si c'est par obéissance que nous avons à le faire, nous pouvons compter sur Dieu sans crainte. Le Seigneur nous exhorte à ne pas nous mettre en souci pour la vie, ni de ce que nous mangerons ou boirons, ni de quoi nous serons vêtus. Notre Père sait que nous avons besoin de ces choses. Il y pourvoira. Lire Matthieu 6, versets 24 à 34.
Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez aux oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille? Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement? Étudiez les lys des champs, comment ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que, même Salomon dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain est jetée dans le four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, gens de petite foi? Ne soyez donc pas en souci disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus, car les nations recherchent toutes ces choses. Car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Mais comment le fait-il? Normalement, c'est par le travail de nos mains. Nous ne pouvons pas compter sur Dieu et ne rien faire. S'il juge à propos de nous retirer le travail ou la capacité de travailler, il faut compter sur sa fidélité. Il interviendra par ses moyens à lui. Il est bon d'être exercé à dépendre de lui seul en recherchant premièrement son royaume et sa justice, comme le Seigneur le dit dans les passages cités plus haut. Paul avait donc raison de dire, en exhortant les matelots à prendre de la nourriture, que c'était nécessaire à leur conservation, puisque Dieu conserve ses créatures en leur fournissant les aliments et les moyens de les obtenir. Lorsque Paul eut exhorté à manger, il prit du pain et rendit grâces à Dieu devant tous. Et l'ayant rompu, il se mit à manger. Et ayant tous pris courage, eux aussi prirent de la nourriture. Or, nous étions en tout dans le navire 276 personnes. Versets 35 à 37. Ensuite, ils jetèrent le froment à la mer pour alléger le bâtiment. Le jour venu, ils se trouvèrent en face d'une terre qu'ils ne connaissaient pas. Ils aperçurent une baie, bordée d'une plage sur laquelle ils résolurent de faire échouer le navire si possible. Pour cela, ils coupèrent les câbles des ancres et laissèrent libre le gouvernail, puis mirent au vent la voile d'Artimon, celle qui est le plus en arrière. Ainsi, poussé par les vagues vers la côte, le navire s'échoua. La proue engagée dans la plage demeura immobile, tandis que la poupe se rompait. Craignant que les prisonniers ne s'enfuient, les soldats proposèrent de les tuer, mais le centurion, voulant sauver Paul, les en empêcha. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers à la mer pour gagner la terre, aux autres d'utiliser des planches et des débris du navire. Ainsi, tous parvinrent à terre, sains et saufs, comme Paul le leur avait dit.